qu'il battra sa femme. S'il fout une gifle, j'en foutrai deux. Ma mère, ma chère mère, s'il me fout une gifle, j'en foutrai deux. Ma mère, je le veux.
Blanchit les troncs des marronniers, tous au carré bien alignés. Rouge les toits, rouge les briques, bleu le ciment patriotique. Et pas une herbe dans la cour pour nous passer le mal d'amour. Ici, tout est réglementaire, pas un caillou n'est de travers. Mur en béton, chevaux de frise, y a que les barbelés qui frisent. En rempart trois, pas qu'à danser, sous l'œil attendri des bouchers. On maquillonne, il faudrait voir, pour les augustes abattoirs. Ici le monde est chamboulé, les assassins sont galonnés. Partout la crasse et la bêtise, c'est de vertu de l'entreprise. Partout la raison du plus fort, sous le badigeon tricolore. Je reste à toi, ma solitude, dans le troupeau des habitudes. Et jusque dans le désarroi, quand le poète est aux abois, pour tous les moutons qui consentent, je suis...
Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent j'ai dessiné en mille facettes, un cœur rougi, les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le temps, cela peut arriver aux prophètes. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête.
La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer futur, l'angoisse vous de la preuve.
La rage.
C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche aux crèves. Le seul moyen de dire au public que j'en aurais cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain.
La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve.
La rage,
je vous fais serment devant le juge, tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé, c'est mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains.
La rage.
Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité.
La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas-de-Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Aristide. Aristide, bonjour.
Salut.
Bien, Samuel.
Bonjour.
Et aujourd'hui, ouverture du Festival de Cannes, nous avons décidé de faire un contre-festival. C'est cela.
C'est ça, Aristide ?
Ouais, c'est ça, on va démarrer ça.
Est-ce que déjà tu peux te présenter peut-être dans un premier temps pour savoir qui tu es pour nos auditeurs ?
Alors moi je suis l'Aristide, c'est mon vrai prénom, contrairement à ce qu'on m'a demandé. Je suis quelqu'un qui est très cinéphile, qui a beaucoup travaillé dans sa vie autour du cinéma, pas dans le cinéma. Et je considère que cet art, il est essentiel, enfin moi dans ma construction politique et sociale, c'est un art qui m'a accompagné toute ma vie et du coup j'ai voulu... que d'autres personnes puissent avoir la transmission du savoir par cet art. Et c'est pour ça que je suis dans le... Bon, on va en parler tout de suite, ou j'en parle tout de suite.
Tu présentes aussi l'association, du coup, ouais, dans laquelle tu es, Cinescred.
Ouais.
Donc, tu es membre de cette association,
ouais,
qui participe au Décolonial Film Festival.
Ouais. Alors, pas exactement.
En fait,
je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Cinescred. Et tous les mois, on propose un film qui est dans un espace différent du monde. Au début, on disait que c'était les Suds, mais en fait... on s'est rendu compte qu'il y a des espaces qui sont pas forcément dans le sud, enfin dans les suds comme on le pense. Par exemple, on a fait un film qui se passe au Québec, enfin au Canada, pardon, et qui parle des populations natives du Canada. Donc ça se passe pas dans le sud global, mais ça reste des populations marginalisées. Donc on essaye de montrer des cinémas qui sont pas disponibles. En fait, le truc qu'on se dit à chaque fois, c'est... est-ce que ce film il est dispo sur Netflix ou sur Canal Plus ou sur je sais pas quoi ? Et s'il est dispo là-bas, on essaye de pas le diffuser, quoi. On essaye de
ah ouais, parce qu'il y a une question de droit.
Oui, il y a des questions de droit. Du coup, on essaye de payer du coup les droits de chaque film, qui sont beaucoup plus gros si c'est des gros films. Et il y a aussi la question de combien de temps un film vit et combien de temps un film continue à recevoir de l'argent. Parce qu'il y a des films qu'on a diffusés où, en fait, ils ont 20 ans et les sociétés de production, elles ont fait banqueroute ou je sais pas quoi. Et c'est parfois difficile de récupérer
quelque chose
quoi.
Mm-hmm.
Et alors, du coup, donc, c'est pas l'association qui participe au festival, c'est des membres de l'association,
ouais,
voilà, qui participent au Décolonial Film Festival.
Exactement. Et du coup, aujourd'hui, démarre le Décolonial Film Festival, la première édition. C'est un festival qui retrouve plein de collectifs de personnes originaires. Alors, c'est de toute la France. Et quand on dit de la France, c'est la France hexagonale, mais aussi la France coloniale, de Martinique, de Guadeloupe, de différents espaces francophones. Et ça se passe à Paris, en région parisienne. En fait, on voulait proposer un contre-festival de Cannes, parce que tous les ans, on a quand même... cette impression que c'est un entre-soi très bourgeois, très parisien, très blanc, très homme, très valide. Enfin, toutes des choses sur lesquelles on ne se reconnaît pas quand on est dans les marges pour différentes raisons.
Ou quand on est dans le décolonial, tout simplement.
Oui, voilà, c'est exactement ça. Et on ne voulait pas... et en fait, on est à chaque fois frustré en se disant que peut-être l'année prochaine, s'il y a des personnes qui sont à l'intérieur, qu'on connaît, qui arrivent à mettre en place des choses. Et en fait, non, ça, c'est faux. Enfin, moi, je sais que moi, de mon côté, j'ai lâché l'affaire. C'est pas de l'intérieur qu'on réussit à faire des choses qui valent la peine de se battre et de se battre, tout simplement.
Il faut prendre le contre-pied.
Voilà, exactement. Et c'est quelque chose qui est... je trouve dans l'essence de ce que c'est que le cinéma et de ce que sont les événements, les festivités autour du cinéma. Parce que là, on parlait vite fait du Festival de Cannes. Et le Festival de Cannes, à la base, c'était un contre-festival face au festival fasciste de la Mostra de Venise. Donc, ça se trouve, nous, dans 100 ans, on va aussi être un festival Sosdem.
On verra ça dans 100 ans.
Si on vous souhaite.
On verra ça dans 100 ans. Mais en attendant, on est dans le premier festival des coloniales.
Oui.
Et donc, on t'invite pour cela. Et on est très content. Et on va rentrer dans le vif du sujet, Samuel.
C'est quoi les principales, en gros, thématiques qui sont abordées dans ce festival? Qu'est-ce que vous essayez de mettre en avant, en gros, dans le Decolonial Film Festival?
Bah en fait, alors je vais reprendre parce que je ne connais pas par cœur les différentes thématiques qu'on met au sein du Decolonial Film Festival. Il y en a 5 qui sont qu'on a choisi en fait ensemble pour pouvoir avoir une espèce de ligne de route. Pour les films qu'on va choisir, parce que on est tous et toutes des passionnés de cinéma à l'intérieur, et en fait on est aussi réunis par le fait de vouloir avoir une position décoloniale sur les films, mais on est tous dans des espaces différents, dans des vies différentes, et du coup faut réussir à avoir des trames qui soient communes,
un fil conducteur.
Oui, voilà, un fil conducteur. Et du coup, dans les termes qu'on a choisi de garder, il y a les résistances, il y a diaspora, il y a héritage, spiritualité, parce que spiritualité aussi, c'est un truc qu'on a tendance un peu à dépolitiser ou qui est utilisé pour
le côté religieux.
Voilà, que pour le côté religieux et que à des fins de domination, mais ça peut être pensé
autrement.
Autrement. Et la question des terres.
L'accaparement des terres,
oui,
plus
voilà.
Précisément.
Mmh. Exactement. Donc, ce sont les 5 thématiques.
Donc, toi, tu vas présenter des films.
Ouais.
Tu vas présenter un film de Medondo, je crois.
Oui, un premier film de Medondo qui s'appelle West Indies.
Alors, qui est Medondo, pour ceux qui ne connaissent pas,
oui.
Des auditeurs.
Ouais, très important. Medondo, c'est un... Alors d'abord, Medondo, vous l'avez tous et toutes déjà entendu au moins une fois.
Oui.
Parce que c'est la voix de Eddie Murphy... de Morgan Freeman et de plusieurs autres personnes noires
à l'écran
en France. Et c'est un doubleur qui est mauritanien, qui a grandi vraiment en Mauritanie, dans le désert lui-même, il raconte ça. Et en fait, on a tendance à penser que c'était uniquement un monsieur rigolo, et moi aussi je pensais ça. Et j'ai découvert à la fin de sa vie qu'il était aussi un grand réalisateur et qu'il enchaînait beaucoup des travaux de doublage pour pouvoir financer en indépendant ses films, parce que c'est des films radicaux, et c'est un réalisateur de, je ne sais plus combien de longs métrages, mais je crois une dizaine, non, je ne veux pas dire de bêtises.
Il y en a 8, et 8. Ils sont vendus à Publico.
Ah.
Oui, voilà, donc ça c'est l'instant publicité.
Non, ce n'est pas l'instant publicité. Medondo, ils sont vendus à Publico.
Ouais.
Mmh. Un coffret de Medondo, 35 euros, j'ai vérifié avant de venir à l'antenne. Publico, c'est la librairie anarchiste, au 145 rue Amelot, métro République, Oberkampf et Filles du Calvaire. Donc si vous voulez connaître Medondo, c'est ses 8 grands films et ses courts-métrages, il faut aller à Publico.
Et j'ajouterais, parce que tu as dit quelque chose de très juste, c'est qu'on le connaît en tant que doubleur, mais on ne connaît pas tout son répertoire. Et moi, je l'ai découvert avec une émission que tu as faite aussi spéciale sur Medondo, sur une chaîne qui s'appelle Histoire Crépue, qui est une chaîne d'histoire décoloniale, on peut dire, et antiraciste, qui est une très bonne chaîne YouTube, donc je la recommande vraiment aux auditeurs. C'est Histoire Crépue, et c'est vraiment un travail de qualité. L'émission sur Medondo, elle était vraiment bien.
Ah,
et moi, c'est comme ça que je l'ai découvert.
Bah, elle était sortie parce qu'en fait, il y a une remasterisation orchestrée par sa sœur.
De ses films qui sont vendus ensuite à Publico.
Voilà.
On a reçu Medondo l'année dernière pour Noël, je me rappelle très bien. C'était l'année dernière la remasterisation des films.
Ok.
Là, moi, je te fais confiance.
<Tu peux. rire>
Et donc, du coup, toi, tu as un film, mais c'est pas le seul film que toi, tu vas présenter au festival.
Du coup, alors, je parle un peu de West Indies. En fait, West Indies, c'est un film qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Et ça parle de... c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Ça parle de... différences qu'il y a... Enfin, pas des différences, mais du prolongement de la négrophobie et de la... place qui est donnée aux populations des Antilles entre... Ça démarre de la Révolution française et ça finit au moment du Bumidome, enfin un peu avant le Bumidome. Et en gros, on a des allers-retours entre le passé et le présent, et pour montrer qu'il y a vraiment un continuum dans les violences et dans les dominations, et que c'est pas uniquement, comme c'est un peu montré de manière simpliste, les gens ils sont racistes parce qu'ils sont méchants. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose qui a été construit, qui a été mis en place sciemment pour pouvoir mener des politiques d'accaparement des terres, des corps et des spiritualités, quoi.
Et donc ça c'est dans la catégorie héritage, non?
Oui, héritage.
Voilà. Et ouais. Donc la catégorie, enfin les différentes catégories, bon il y en a qui parlent un peu d'elles-mêmes. Comme résistance, on imagine assez bien peut-être ce que recouvre la catégorie diaspora aussi. Mais du coup héritage, est-ce que tu pourrais genre juste en deux mots nous expliquer c'est quoi que vous essayez de faire passer comme
dans la partie héritage, en fait on voulait parler de ce qu'il y a actuellement par rapport à toutes les tous les combats qu'on a pu connaître dans l'histoire. Et en fait, on voulait pas uniquement centrer le décolonial sur le passé et sur ce qui a été fait avant et qui parfois est fantasmé ou on a un peu un souvenir qui peut parfois être déformé avec les lunettes du temps, et que montrer que c'est pas quelque chose uniquement d'ancien, mais qui est aussi totalement présent, quoi.
D'accord. Et donc, tu vas présenter un deuxième film.
un film de Medondo qui s'appelle Camp de Tcharoï, qui était essentiel pour nous de présenter, parce qu'en fait, on va commémorer les 80 ans de ce massacre qui a eu lieu et qui a été perpétré par l'armée française. En gros, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas que sénégalais, mais on disait... tirailleurs sénégalais parce que c'était de Dakar ou de
port. Ils embarquaient des ports sénégalais, en fait. Oui, c'est voilà, pour ça qu'on les appelait par raccourci tirailleurs sénégalais.
Exactement. Et du coup, après la guerre, il y a plusieurs personnes qui ont été rapatriées, je ne sais pas comment on dit rapatriées, mais qui étaient...
Ils ont été ramenés en Afrique.
Ramenés en Afrique. Et en fait, il y a eu une mutinerie qui a eu lieu parce que on a refusé de leur donner leur solde avec
les arriérés.
Avec des raisons fallacieuses en disant vous avez retrouvé la liberté, vous n'avez pas besoin de ça, vous avez des grands espaces chez vous, pourquoi est-ce que vous voulez de l'argent? Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez aussi des choses beaucoup plus importantes comme la camaraderie qui est revenue de la guerre, donc vous avez la liberté, vous n'avez pas besoin de ça, et ça c'est vraiment quelque chose. Et moi je trouve que c'est intéressant que vous ayez rigolé, enfin que tu aies rigolé, je sais pas si on peut,
oui,
je peux tutoyer, parce qu'en fait c'est un film très drôle, parce que ça parle d'un massacre. Tu te dis que parler d'un massacre c'est triste, mais en fait la première partie, sans divulguer le film, la première partie, elle est extrêmement drôle, elle est extrêmement aberrante, et on rigole avec les personnages, et on est du coup vraiment proche, ouais, de l'absurde, et on est du coup proche des personnages des tirailleurs. Vraiment, on a l'impression que c'est des proches à nous, qu'on connaît et tout. Et en plus, il a fait vraiment... parce qu'il y a un aspect panafricain dans son cinéma où il essaye de réunir les différentes personnes présentes sur le continent. Alors là, c'est sur le continent, mais parce que le panafricanisme, il prend ses sources dans la Caraïbe. Mais là, il y avait vraiment cet aspect-là. Et en fait, dans la deuxième partie, les gens pour lesquels on s'était attaché, pour lesquels on avait eu de l'empathie et tout, dans la deuxième partie, ça, c'est triste, je ne veux pas dire, mais c'est...
Alors, pour information, le Festival de Cannes, pour revenir au Festival de Cannes, a une version remasterisée du film de Sam Ben Ousmane, et il va la projeter aujourd'hui. Et tu peux revenir sur
Alors, nous, enfin... On l'a découvert, nous on avait déjà prévu la programmation de longue haleine sur leur déjà sur leur projection. Alors, nous, on est content quand même que Sam Ben soit prolongé, qu'on continue à diffuser ses films, qu'on continue à projeter son art et ses combats, parce que l'un des trucs qui est important sur Sam Ben, c'est qu'à la base, c'était un écrivain. Et il s'est rendu compte que au moment des, alors on peut discuter sur le terme, mais au moment des décolonisations, quand il a fait un tour dans différents pays d'Afrique francophone, il s'est rendu compte que en fait, il n'était pas connu. Il était connu que par l'espèce d'élite africaine, la bourgeoisie africaine qui savait qui il était, mais il n'était pas connu par le reste de la population.
Par le grand public.
Par le grand public. Et c'est pour ça qu'il a décidé de se tourner vers le cinéma, parce que pour lui, ce qui lui intéresse le plus, c'est pas d'avoir raison, parce que ça sert à rien d'avoir raison si il y a que si on est tout seul ou si on est que de la bourgeoisie qui nous donne raison. Et il a décidé de se tourner vers le cinéma, qui est un art beaucoup plus populaire et qui peut déployer plus de marge. Du coup, moi, je trouve que c'est bien de diffuser, mais là, je parlais des masses au Festival de Cannes. Ceux qui seront dans la salle, c'est pas la masse, c'est pas les gens qui vont constituer.
C'est une élite.
Oui, voilà, c'est une certaine élite. Qui voit les films d'une certaine manière, parce que ça aussi, c'est un truc je trouve qui est important, c'est qu'est-ce qui va se raconter après le film. Je sais pas s'il y aura une discussion après ce film, par qui elle sera menée, si les personnes qui ont vu le film vont rester. Enfin, le film, nous, avec le Cinescred, on a ce truc de dire que le film, il se termine pas avec le générique, en fait. Il se termine avec la discussion qu'on a eue autour du film. Et si la discussion à la fin du film, c'est c'était grave avant, le passé, c'était terrible, hein. Heureusement que maintenant,
ça va mieux.
Il y a le bonheur. Non, c'est... Donc sur la diffusion, oui, on trouve que c'est bien. Et si ça fait de la publicité pour ce film et que ça donne envie à des gens de regarder ce film, oui. Mais bon, je...
Mais vous, voilà, vous en servez d'un médium pour lancer des débats politiques qui ont quand même une vocation un peu plus ambitieuse que ce qui est proposé au Festival de Cannes.
C'est de l'éducation populaire, nous. On imagine vraiment ça comme de l'éducation populaire, quoi. Et après, je vais arrêter parce que sinon je vais rester trop longtemps sur Sam Ben, mais il a fait plusieurs films.
Dans l'excellent Mouladé.
Mouladé, exactement, qui est vraiment un film merveilleux qui parle de...
L'excision.
De l'excision, de mutilation génitale féminine. Et en fait, il y a ce côté où le film, il n'est pas tourné en français.
Non.
Parce que le film n'est pas destiné aux Français. Et ça me fait penser à un autre passage d'Ousmane Sam Ben où, au Festival de Cannes, quand il avait présenté l'un de ses films, il y a un journaliste qui avait demandé comment est-ce qu'il fait pour faire des films qui plaisent autant en Occident, quelle est sa recette pour faire en sorte qu'en Occident, on apprécie sa cinématographie, sa forme, parce que dans la forme, il est extrêmement bon, Sam Ben. C'est pas que le fond qui est bon, c'est la forme aussi qu'il arrive à déployer ses messages.
C'est un grand cinéaste.
Oui, un immense cinéaste. Et sa réponse, c'était, franchement, très bien si vous aimez mon cinéma, mais moi, il n'est pas destiné à vous, en fait. Il est destiné aux personnes du continent. Donc, si vous l'aimez, soit, super. Mais c'est pas vous les destinataires, donc...
Ça avait jeté un froid.
Oui, voilà.
En même temps, l'Occident qui n'est pas le centre du monde, le mec il était dit perdu, quoi.
Ah, ça c'est clair.
Ouais.
Alors, du coup, ça fait trois films que toi tu vas...
Non. Mouladé, c'est un autre film de...
C'est un autre film
de Sam Ben. Mais il n'y a pas un film de Sam Ben que toi tu vas...
Non.
C'est Camp de Tcharoy, le deuxième film.
Ok.
Et West Indies, le premier film.
Et t'en as pas un troisième?
Non,
okay, ça fait déjà beaucoup. Fait déjà beaucoup,
ouais. Tu avais en projet, je t'avais suggéré un film de Raoul Peck.
Oui. Raoul Peck aussi, c'est un réalisateur que je trouve
excellent.
Excellent et essentiel, qui a aussi dans sa vie personnelle. Ah, parce qu'on n'a même pas parlé de la vie
Samuel Ousmane a été tirailleur sénégalais.
Oui, voilà. C'est dans sa
vie. Donc il sait de quoi il parle.
Voilà, exactement. Et il s'est radicalisé à Marseille,
voilà.
En étant docker. et en étant syndicaliste docker dans un parti qui malheureusement est devenu ce qu'il est, qui s'appelle la CGT, mais qui à l'époque a été un parti radical
et décolonial.
Un syndicat décolonial. Un syndicat. Et qui a changé un petit peu.
Ouais. Qui est moins décolonial qu'avant. On va dire.
Qui,
Alors, Raoul Peck.
Donc, Raoul Peck, c'est un réalisateur haïtien.
Dont les parents ont fait la démarche de retourner sur leurs racines et ils sont allés au Congo.
Exactement.
D'où le personnage de Lumumba.
Exactement.
Dans sa filmographie.
Qu'il a réalisé.
Un film, une fiction et un documentaire. Il a fait les deux.
Parce que dans sa narration, en fait. Il y a le côté... alors, j'avais lu en interview et dans sa démarche artistique, en fait, le documentaire, c'est quelque chose qui considère que c'est essentiel, mais que la fiction, parfois, permet d'aller plus loin.
Elle complète le documentaire.
Oui, voilà, elle complète les trous qu'il y a dans le documentaire. Et que la fiction reste aussi de la fiction, quoi, parce que le cinéma, c'est pas de la réalité, c'est toujours un point de vue et une focale qui est mise sur une partie. Et Raoul Peck, alors, il est pas cette année, parce que du coup, il fallait faire une sélection, donc il est pas cette année au Décolonial Film Festival, enfin, on n'a pas proposé de film de lui, mais moi, je vous conseille de.
Alors, deux films de lui. Sometimes in April, qui est sur le génocide du Rwanda, et I'm Not Your Negro, qui est sur Baldwin, qui a été multiprimé et qui est passé régulièrement sur Arte.
Oui, sur Arte. Ouais. Il y a aussi.
Et qui est un peu plus décolonial. Parce qu'à un moment donné, Baldwin explique que les Noirs attendent depuis 400 ans d'avoir un président noir, alors que les Kennedy, à peine débarqués de leur bateau, vont devenir présidents. Mm. Voilà.
Et sur Baldwin, c'est intéressant parce que c'est il a vécu en France et il y avait le côté de c'était un bon noir parce que en fait au début on aime bien les noirs qui viennent de l'étranger en France.
Tout à fait. Par contre, on supporte moins ceux qui sont sur place.
Oui, voilà, ceux qui viennent et qui sont nés sur place et on commence à les détester quand ils commencent à dire quand ils disent il y a du racisme aux États-Unis et tout, on les aime bien, on dit ah regardez. Là-bas, ils prennent l'asile ici chez nous parce que c'est plus safe. Mais
Baldwin a commencé à dire les choses sur l'Algérie et tout le reste, on lui a dit la porte est grande ouverte.
Voilà, reste à ta place.
Voilà, et il est rentré pour faire sa juste part. C'est très bien expliqué dans le documentaire de Raoul Beck, justement.
Exactement.
Voilà.
Et il y a exterminé toutes ces races.
Toutes ces brutes.
Ouais. Wow. Oui.
D'après le livre de Steve Lindquist.
Qui est aussi une série de 4 documentaires qu'il a réalisé. Et là, je le conseille.
Alors, il y a aussi 3 documentaires qu'il a fait sur Haïti, pour expliquer le désastre d'Haïti, qui sont passés sur Arte. Nous avons fait, il y a 15 jours, une émission sur Haïti. Donc, si vous avez l'occasion de regarder les documentaires de Raoul Peck sur Haïti, essentiel. Voilà.
D'accord.
Et il y a aussi une version livre, Exterminer toutes ces brutes.
Oui.
Donc, Raoul Peck, un autre point supplémentaire, c'est que c'est quelqu'un de tellement formidable qu'il a même fait La vie du jeune Karl Marx, qui était pas mal.
Il a réussi, en 90 minutes, à expliquer Karl Marx. Faut le faire.
Le jeune Karl Marx.
Le jeune, ouais.
Voilà. Oui, le jeune Karl Marx. Parce que
le film s'arrête, en fait, en 1948.
Oui, mais on comprend, en 1948, avec le...
1848.
On comprend la suite de Karl Marx. Toute sa genèse.
Et il n'y a pas que... Enfin, il y a Hegel, il y a aussi...
Ouais,
tout le monde est là. Tout le monde est là. Tous les fondamentaux sont dans ce livre, dans ce film. Voilà.
Mais ouais, excellent. Est-ce que ce serait pas l'heure d'une première petite pause musicale?
Et on peut préciser que François nous a rejoint.
Voilà.
François.
Excusez-moi.
Rien ni personne ne pourra étouffer une révolte. Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes. Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes. Traînons plus bas que terre, ceux qui nous l'ont déjà fait. Prendre le mal par le mal n'est pas bon en effet. Mais la rage
et la frustration
empêchent
en leur réflexion.
Est-ce Dieu ou le diable qui guide nos actions? Sache que derrière nous il y a Beauval ainsi que les Lilettes. Tous les départements du 01 au 77, accompagnés de 10 à côté de mystiques réagissent.
Notre tendance à l'extrémisme est poussée par le lustre de la justice.
Strictement
hardcore.
La jeunesse est désespérée, elle est
hardcore.
et rien ne pourra l'arrêter.
Quand il arrive, nous serons aussi nous défendre.
Car tu ne te doutes que tout vient à point à qui c'est t'attend.
La sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
Passons à l'action.
La sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
L'explosion de toutes les cités approche. D'abord des gens fâchés qui n'ont pas la langue dans la poche. Faisant partie d'un parti d'avant-garde guidé par deux principes visant à renverser la société. Juste pour le plaisir, je répète, ma cité va craquer. Une révolution complète. Je prends plaisir au vacarme, au fracas des vitres quand tout crame. Les cris des jeunes deviennent des arts, qui désarment. Das Bougar, relève le gant. Le faux devient brigand, cramer le système est mon slogan. Les chétans fusionnent avec les deux banigas. On additionne les forces pour faire face à la menace de l'état bourgeois.
La lutte des classes
dans la masse, tu sens l'angoisse.
Au très vite, petit boulet.
Trace le chacal de Beauval à la vie de ta face. Il faut lutter, affûter pour faire chuter le combat.
La sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
Passons à l'action.
La sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
Attendez,
mais non. 10 liqueurs, ma milice est en sueur. Forcé de bouger sur le but indiqué par ailleurs. J'ai fleur,
une folie meurtrière.
Jusqu'à ce que Babylone prenne peur. Ma peur d'y perdre la peau, qui est pour dérailler les inspecteurs. Regardant droit devant moi, élaborant mon phrasé de guerre.
Préparez le cimetière,
mais tu verras en enfer.
Ouvre la porte de la guerre civile et rentre
avec
fierté.
Car les droits de l'homme sont laissés à la porte d'entrée à jamais.
Sachez que ma rage est loin d'être passagère.
Face au commando numéro 3,
que tu comptes faire. Car lorsque des chiens mordent mes frères, ces derniers sont en droit de les abattre.
Donc je check la muselière.
Celui qui s'en tire n'est pas le flambeur, mais celui qui a des tripes. Donc pour une fois, soyons à la hauteur de nos lyrics. Du sang à 300% pour j'échange la vision du champ.
Dorénavant,
et dès maintenant,
à toi de choisir
la
ton
sédition
camp. Est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
Passons à l'action.
La sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
Attendez,
la sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
Passons à l'action.
La sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
Attendez,
la sédition est la solution.
Révolution.
Multiplions les manifestations.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission avec Aristide sur tout ce qui est cinéma décolonial. Samuel, à toi.
Et François, qui est là aussi.
Oui, François qui nous a rejoint tout à l'heure.
Alors là, on vient d'écouter Deux Balles de Nègre, Sédition. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette musique ?
Avec Mystique, ouais. Moi, c'est une musique que j'ai extrêmement écoutée et qui était sur la bande originale d'un film. Alors, le film, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, du coup, et j'essaye de ne pas le regarder parce que j'ai envie de garder des bons souvenirs de ce film et j'ai peur que si je le revois maintenant, s'il s'appelle Ma Cité va craquer, en fait, le film de Jean-François Richer. Et en fait, vu que j'ai vu la cinématographie récente de ce réalisateur et certains de ses propos récents, je me dis, ah, ça se trouve, quand je reverrai ce film, il y a
ça
des trucs
casser
qui vont
grincer.
Mais sur la musique, en fait, je considère pas que le rap doit être uniquement un style revendicatif qui a des messages, mais j'aime bien quand ça en a de temps en temps. Et je trouve que cette musique, moi, je la mets avant d'aller en manif ou avant de faire certaines fins de ma vie, on va dire. Et à chaque fois, elle me donne de l'énergie, elle me donne envie de...
ça te met un état d'esprit combatif, voilà. Un peu, quoi.
Exactement, ça m'endort pas et j'aime bien. Et en plus, il y a des rappeurs, les deux balles, ils viennent du 7-7 et je suis originaire du 7-7.
Donc il y a un peu de chauvinisme, quand même, quoi, finalement. On s'y retrouve. On a beaucoup parlé du Décolonial Film Festival en première partie d'émission, mais on voulait revenir quand même sur l'association dont fait partie Aristide, qui est l'association Cinéscred, et donc qui est une association qui a un ancrage local, du coup,
ouais.
Qui est le 19e arrondissement.
Exactement.
Pourquoi le 19e ?
Alors, pourquoi le 19e ? C'est parce que, en gros, on a une possibilité dans un espace qui s'appelle le TLM, qui a été rénové. Mais avant, on y allait, qui était pas loin de Rosa Parks et qui nous avait proposé un créneau pour pouvoir diffuser. Moi, j'étais pas là au départ. Enfin, j'étais là aux premières diffusions, mais j'étais pas là à la création de ce collectif. Et du coup, ça a pris. Et on avait commencé avec des films de Sam Ben, d'ailleurs. Et on a prolongé chaque mois on a voulu proposer dans un espace populaire, donc le 19e arrondissement, un film et une discussion qui a lieu après le film avec des membres qui viennent localement de l'espace. Parce que pour nous, c'était important que le cinéma, ce soit pas uniquement un espace... on voulait pas que ça ressemble à la cinémathèque de Paris, ouais. Quoi, ou à ce type d'espace qui voit le cinéma uniquement sur le côté esthétique, avec des beaux plans, des cadrages, des machins. Et encore ça, on peut le questionner. On peut le comprendre, mais on peut aussi le questionner sur ce qui est beau. Parce que le beau aussi, c'est quelque chose qui est construit, mais bon, c'est un autre sujet.
Je vous renvoie à une excellente interview qui a été faite par Jean Renoir,
ouais,
qui disait est-ce que ce qu'on construit est de plus en plus laid. Parce qu'il disait, on dit que tout ce qui est primitif est beau, donc ça veut dire que tout ce que l'Occident a construit devient de plus en plus laid. Donc ouais. Il se posait la question dans une interview passionnante. On peut la voir sur le site de l'INA.
Ok.
Voilà, donc cool. Je vous renvoie à ça.
Et peut-être une question un peu pratique, mais imaginons que quelqu'un est du 19e ou d'à côté qui nous écoute, il veut vous rejoindre pour une diffusion. Comment ça se passe ?
Pour regarder le film ?
Ouais, pour venir participer.
En fait, il faut nous suivre sur... on est essentiellement présent sur Facebook et sur Instagram, mais il y a aussi une newsletter. Et tous les mois, on propose un nouveau film par mail, on reçoit. Et en fait, il suffit juste de s'inscrire. Nous, on a juste, du coup, un nombre limité de places. On va dire 90-100 places. Donc, parce que pour des raisons de sécurité et tout, on ne peut pas...
Quel sera le prochain film ?
Le prochain film, c'est un film colombien. J'ai pas le titre, je te le trouve tout de suite, mais le prochain film, ça va parler des questions de terre.
Et l'accaparement des terres.
De l'accaparement des terres. Aussi, une question qui est très importante, c'est que y a des choses qui sont mises en place pour la récupération des terres, mais en fait, dans les faits, il suffit pas juste d'exister pour récupérer sa terre, ça demande de récupérer des dossiers. Enfin, il y a l'aspect...
Il y a un matériel. Combat juridique.
Oui, voilà. T'as le... La partie à la fois la partie des idées ou légale, je sais pas comment l'appeler, où on dit c'est bon, c'est légal, tu peux le faire, et après il y a les faits où en fait c'est extrêmement compliqué et c'est
ce qui est d'ailleurs un grand classique finalement de toutes les administrations, c'est de rendre des choses possibles, mais en réalité de les rendre impossibles dans toute la partie démarche et la partie
Mais ce serait pas drôle, voilà. Sinon, oui. Samuel.
Mais c'est vrai que c'est un phénomène en plus récurrent. Et d'ailleurs, ce qu'il faudrait dire aussi sur ce phénomène et sur le fait que il y a énormément de bâtons qui sont mis dans les roues des gens, c'est que là, il y a le phénomène de l'accaparement des terres, mais si on prend la perspective, par exemple en France, en fait, on se rend compte que plus tu es marginalisé, c'est-à-dire plus tu vas avoir des handicaps, ouais, des difficultés de langage, des difficultés d'écriture, etc., et plus en fait tu vas être, alors que tu aurais le plus besoin de ces aides, tu vas t'en retrouver plus marginalisé, quoi, au final. Donc en fait, ça. C'est des processus qui sont hyper excluants, finalement.
Et un grand merci à la numérisation en passant.
Et la dématérialisation.
Ouais, non, mais ça, c'est un truc qui est essentiel. Moi, je travaille. Enfin, dans ma vie, pour gagner de l'argent et manger, je travaille dans l'ingénierie pédagogique et dans le numérique. Et en fait, il y a une espèce de volonté. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte pour les études, et notamment le taux d'illettrisme qu'il y a en France, qui est à peu près de 17%. Donc, c'est énorme. Et le fait que tout le monde n'est pas à l'aise pour travailler sur...
C'est ce qu'on appelle la fracture numérique.
Exactement.
Chirac, il avait dit, très belle.
Oui, où est-ce qu'on trouve le mulot ?
On va peut-être pas citer Chirac après.
Le film, il s'appelle Los Reyes del Mundo, et c'est une réalisatrice qui s'appelle Laura Mora.
D'accord.
Qui l'a réalisé, et c'est le 21 mai.
Bien.
Donc c'est la semaine pro.
Et d'ailleurs, ça me fait penser, puisque tu parles de réalisatrice, qu'on avait eu une discussion sur des films donc, qui me semble que vous avez diffusé pour Cinescrète de Amandine Gay.
On n'a pas diffusé de film d'Amandine Gay encore, parce que au moment où il était diffusé, il était trop récent pour qu'on le propose.
D'accord.
Mais Amandine Gay, c'est une réalisatrice que moi j'admire beaucoup, que j'adore, qui je trouve propose un cinéma radical et qui me pose des questions et qui me décentre aussi sur qui je suis et sur les représentations qu'on est. En fait, pour savoir l'histoire d'Amandine Gay, c'est une personne qui est adoptée, qui a été adopté par une famille de Blancs dans la campagne à côté de Lyon. Et dans son cinéma, elle parle de, bah de, des questions d'adoption, et notamment de l'adoption transraciale, qui est un sujet qui est un peu tabou, parce qu'en gros, bah si tu commences à dire à une personne blanche, ou pas forcément blanche, d'une certaine origine, qui a adopté une personne enfin,
d'une autre origine,
ouais. Et ben en gros tu peux pas critiquer une personne qui fait ça, parce que ça veut dire qu'elle a un grand cœur, et que,
mais c'est pas final, si simple,
mais c'est pas si simple, ouais. Parce que on est traversé dans nos sociétés, on est traversé, chaque personne est traversée par des
schémas,
ouais, voilà,
par des schémas,
par des schémas qui peuvent nous faire avoir des comportements racistes, et notamment elle a écrit un livre qui s'appelle Une poupée en chocolat, et en fait ce livre il s'appelle comme ça parce que il y a une fille adoptée noire qui se faisait appeler poupée en chocolat par ses parents adoptés, et qui était adoptant, et du coup c'était une, bah, elle était chosifiée, en fait elle était pas c'était pas un être à part entière, c'était une poupée en chocolat, et ça pose plein de questions, et notamment des questions simples, genre l'entretien des cheveux. On n'entretient pas les cheveux de la même manière pour des personnes blanches et pour des personnes noires, ou des personnes d'origine maghrébine ou d'origine sud-asiatique. Enfin, c'est pas la même chose. Et juste, quand, bah, du coup, elle propose des choses, et notamment sur comment est-ce qu'on fait pour s'occuper d'un enfant noir quand on est dans une famille blanche. Et il y a plein de choses. Par exemple, ses parents, ils l'avaient inscrit au basket, parce qu'au basket, il y a beaucoup plus de personnes noires que dans les autres sports. Elle a fait en sorte qu'elle puisse rencontrer dans sa vie des personnes noires, parce qu'elle ne veut pas avoir des personnes noires qui ne rencontrent jamais de personnes noires dans la vie, et qui les découvrent en étant adultes, et à qui ça fait un choc
culturel
profond, parce que à la fin, toi-même, tu es noir, mais tu ne connais pas la culture noire dans ta vie, quoi. Donc, Amandine Gay, c'est une...
Et le film... très grande...
Le film qui était en lien avec le livre, c'est Adopté, il s'appelle, hein.
C'était Adopté, il me semble. Enfin, j'ai pas pris mes notes, c'est pas bien ça.
Et après, tu m'avais parlé de Ouvrir la Voie aussi.
Oui, Ouvrir la Voie, qui est un film, qui était le premier film. Alors, elle fait que des documentaires. Enfin, pour l'instant, elle a deux documentaires. Et Ouvrir la Voie, c'était un film qui donnait la parole à des femmes noires en France, ou francophones du moins, et qui raconte chacune leur parcours de vie, que ça soit dans leur monde, dans leur vie professionnelle, ou dans leur vie associative, ou dans leur vie culturelle, et de savoir comment est-ce qu'elles ont réussi à... Enfin, quels sont les moyens qu'elles mettent en place pour se déployer.
Moi, je dirais plutôt les stratégies.
Ouais, les stratégies mises en place pour exister, parce que des fois, c'est juste la question d'existence, hein, qui est dans son entièreté, qui est en jeu, quoi. C'est pas... pour gagner plein d'argent, pour je sais pas quoi, c'est juste la question d'existence de manière sereine, quoi, avec le fait d'être la charge de parfois des frères et sœurs, parce qu'on est dans une société qui est raciste, mais on est aussi dans une société qui est sexiste, donc comment est-ce que tu fais quand t'es une femme noire et que des fois t'es en situation de handicap, enfin, donc tu as plusieurs choses qui sont mises en place, et ça parle de la créativité qui est je sais pas si c'est issu de la douleur, mais en fait je sais pas comment le dire, parce que j'ai pas envie de dire que c'est une bonne chose, enfin c'est un moyen, la créativité c'est un moyen de s'en sortir, et que cette créativité elle se déploie pour des personnes qui ont besoin de s'en sortir, quoi. Donc voilà.
Mais ce qui est intéressant, puisque tu parles de ce phénomène d'existence et du fait de pas être invisibilisé, c'est qu'il y a une espèce de, bon, enfin je sais pas si on peut dire une polémique ou... Bon, il y a eu des réactions en bonne quantité quand même à l'affiche du film Moi aussi, de Judith Godrèche, où en fait l'affiche du film est une foule, et on regarde, en fait dans la foule il n'y a aucune femme noire, il n'y en a pas une seule, il n'y a que des femmes blanches.
Surtout c'est audacieux, parce que le film il s'appelle Moi aussi,
ouais.
Qui veut dire Me Too en anglais, et qui est un mouvement qui vient de Tarana Burke, qui est une activiste
noire
états-unienne, et qui a été après repris par une actrice de Charmed qui s'appelle j'ai oublié son nom, Alissa Milano.
Milano, oui.
Qui l'a repris et tout le monde disait ah bah super, bien joué Alissa, merci pour ce nouveau mouvement, alors qu'elle a pas créé ce mouvement.
Elle a juste repris.
Elle a juste repris. Et là c'est la même chose, c'est de la reprise de quelque chose qui était préexistant et dans lequel on exclut les femmes qui sont en première ligne sur ces questions là. Et moi c'est des discussions qu'on avait eues aussi au moment du Decolonial Film Festival. C'était pour parler de ces thématiques et de voir. Et on était en plein milieu de alors, je sais pas si c'était la sortie de la série de Judith Godrèche, où bah bien évidemment on est en soutien aux victimes. Ça c'est pas une thématique, c'est pas quelque chose
qu'on discute.
La question c'est pourquoi est-ce que toutes les victimes ne sont pas intégrées à ce message, quoi. Et ça c'est
alors problématique. Je renvoie à un documentaire qui a été produit par des actrices et metteuses en scène noires, qui était Noir n'est pas un métier,
ouais.
Qui explique bien ça, et qui est une réponse à ta question. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce documentaire.
Moi, j'ai lu le livre qu'elles ont sorti après.
Voilà. Donc, c'est une réponse. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a 100 personnalités qui ont sorti un MeToo français dans le monde pour dire qu'elles veulent des réponses sur ce qui se passe dans le cinéma et dans la société en général.
Dans les hôpitaux.
Partout. Mais quand on regarde les photos, je les ai regardées, la proportion de femmes noires, elle n'est pas significative. Donc je me suis dit, bon, encore un combat.
Ouais.
En plus.
Et c'est Aïssa Maïga qui est à l'initiative de ça, qui est une actrice
courageuse,
immensément courageuse.
Et qui paye le prix.
Ouais.
Surtout quand, dans l'affaire Polanski, elle avait pris position expliquant que son industrie n'était pas prête à un MeToo.
Oui, voilà.
Elle l'avait dit à l'époque. Parce qu'Adèle Hallel avait claqué la porte du festival quand elle avait vu qu'on permettait à des gens, des prédateurs sexuels, de venir s'exprimer.
C'est au César. Et avant, et ça, c'est un truc qui m'en fout. Bah, qui m'étonne pas, mais qui m'en rend quand même fou, c'est que pendant cette même cérémonie, on se rappelle d'Adèle Haenel, et bravo à elle, je dis pas le contraire, mais on se rappelle pas de Aïssa Maïga, qui a eu un discours extrêmement fort devant le parterre des personnes qui sont responsables des choses qui
arrivent. Et des programmations.
Des programmations, des choix des réalisateurs et des producteurs et des personnes qui mettent en danger la vie...
des enfants et des femmes.
Des femmes, enfin, toutes les personnes qui sont autour... de la construction de films. Et en fait, le lendemain, il y a eu un écrit de ah putain, quelconque théorie, c'est Virginie Despentes qui a oublié de mettre Aïssa Maïga dans son rapport. Enfin, elle a écrit un texte pour Libération où elle raconte à la fin on dit
elle a fait un compte rendu de la soirée et elle n'a pas mentionné à ça truc tout.
Je
à fait
comment tu peux faire ça, enfin comment tu peux
sans problème quand on connaît Virginie Despentes, c'est pas étonnant.
Je la connais pas assez.
Il faut lire davantage.
Je vais essayer. En plus
non, il faut pas c'est une perte de temps. Pendant le Covid, elle a fait des comptes rendus de comment elle était comment elle se positionnait par rapport au Covid. C'est pas intéressant.
OK. Allez.
Parti.
C'est mon point de vue et je le maintiens.
Bon, moi je te fais confiance sur ces sujets-là.
Ouais. Tu as tort. Tu devrais avoir ton libre arbitre. Ah.
Bordel, je me fais cancel aussi, putain. Je peux pas avoir mon libre arbitre, surtout, faut bien que je le délègue un peu, mon libre arbitre, à des gens de conscience.
Bon.
Je
vous signale gentiment qu'il n'y a pas la parité aujourd'hui.
Et qu'il n'y a même quasiment jamais, en fait, la parité.
Voilà.
C'est un peu une tradition à l'AFA, d'ailleurs. Bon. Alors, c'est bonne parole.
Mais ça me fait penser. Genre, je continue. Enfin, désolé.
Non, vas-y, je t'en prie.
On a sorti un podcast avec le Cinéscred qui s'appelle le Scredcast. Et il y a deux épisodes qui sont sortis. En gros, on revient sur des films qu'on a diffusés. Et parce qu'en fait, à la fin, on a chaque fois une heure de discussion avec les invités et avec le public. Parce que, enfin j'en avais pas parlé, mais l'un des trucs qu'on trouve important, c'est que le public réagisse. On veut qu'il y ait de la discussion avec le public et on veut que tout soit dit, parce qu'il y a aussi cette tendance à dire que le public il est con, ou le public il comprend pas, ou le public machin n'est pas outillé, ou je sais pas quoi. Et en fait, non, le public, s'il dit des choses, s'il comprend des choses, s'il perçoit des choses, c'est pour des raisons. C'est pas par magie qu'on pense des choses là. Et on trouve à chaque fois intéressant d'avoir des échanges et que eux ils nous apportent par des questions, parce que nous, entre nous, dans le Cinéscred, on est que des gens qui aiment le film, les films, et qui sont un peu cinéphiles. Et des fois, juste entre nous, on a tendance à pas observer des choses que des non-cinéphiles vont voir, quoi, sur des questions de langue, des questions de personnages et tout ce qui va avec. Et du coup, on a sorti un podcast, et la parité, pour nous, elle est importante dans ce podcast. Mais du coup, on a ce truc de... pour rechercher des invités, on a des hommes qui arrivent facilement à nous répondre, même s'ils ne sont pas forcément compétents sur les thématiques qu'on veut, mais qui se proposent, alors qu'on ne les a pas forcément sollicités.
Et il est plus dur d'avoir des femmes.
Oui, voilà, qui sont beaucoup compétentes sur le sujet, qui sont
parce qu'elles intériorisent davantage, elles se légitimisent ouais, davantage, mais ça, c'est la société.
Oui.
Qui les conditionne.
Exactement.
À ne pas se sentir légitime sur des sujets, alors qu'elles le sont largement. Et c'est un travail que devraient faire la société, l'école, tout le monde, et expliquer aux petites filles, dès toutes petites, qu'elles sont légitimes. Et le jour où elles se sentiront légitimes, elles le seront jusqu'au bout, jusqu'au tombeau. Et ça, on aura gagné beaucoup de temps. Et on aura une autre société.
Bah, on essaye d'œuvrer pour ça, en tout cas.
Oui, chacun à son niveau.
À son niveau, oui. Et du coup, donc là, pour l'association Cinéscred, vous avez diffusé quoi comme film récemment
Rosie, le film un film québécois. Enfin non, canadien, mais qui n'est pas sorti en France, qui est un film qui parle de... alors je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des natifs au Canada, et le fait que... Mais en fait, on ne les tuait pas uniquement en les butant ou en leur donnant... Enfin, faisant en sorte que leur vie soit un tel enfer qu'ils ne puissent pas s'en sortir matériellement. Il y avait aussi la destruction du tissu familial, et le fait qu'on prenait des enfants...
On retirait les enfants.
Voilà, on retirait les enfants...
pour les placer dans des familles blanches.
Exactement.
Ou en pensionnat.
Exactement. Et il y a d'ailleurs eu des caveaux qui ont été trouvés dans
voilà,
des
pensionnats. Voilà, à côté des pensionnats. Les tombeaux, oui. Les tombeaux des enfants.
Des enfants. Et en fait, Rosie, c'est l'histoire d'une gamine qui est l'enfant d'une personne qui a vécu la vie dans les pensionnats et dans ces espaces horribles et indignes pour l'humanité, quoi. Et en fait, c'est une enfant qui a pas connu sa mère, qui a connu sa mère et qui vient de décéder et qui a du coup doit être qui doit aller vivre dans sa famille. Et dans sa famille, il y avait une sœur qui était blanche, et en fait cette sœur blanche, elle est queer, elle est totalement dans une vie avec des personnes qui sont marginalisées, avec des personnes trans ou des personnes lesbiennes, enfin et ça se passe dans les années 80. Et en fait il y a une espèce de solidarité qui est faite entre personnes marginalisées, quoi. Même si au début elle veut pas d'un enfant, parce qu'elle, elle voulait pas être mère et tout. Et en fait, du jour au lendemain, il y a une gamine de 6 ans qui vient dans les pattes. C'est un peu compliqué à accepter. Enfin, c'est concept. Voilà. Et du coup, on a voulu parler par ce film de la question des autochtones au Canada et des questions queer au Canada. Et pour nous, c'était essentiel de parler de toutes ces questions-là, et dans les autres films aussi qu'on a diffusés. En fait, on essaye à chaque fois d'aller dans des espaces différents. Et moi, je suis d'origine centrafricaine. Et une fois, on a co-diffusé un film qui s'appelle Nous étudiants. C'est un film qui a été réalisé par un pote à moi, SO Rafiki, Fariala, qui a eu des petits soucis après la diffusion de son film. Bon, on va pas trop en parler, mais en gros, c'est un film qui raconte les 3 années d'études en République centrafricaine. Au début, c'est 4 potes étudiants et qui montrent leurs galères. C'est un documentaire qui montre les galères qu'il y a dans ce pays qui est en proie
à la guerre civile depuis 10 ans.
Exactement. Qui est aussi un pays qui a... Ma grand-mère, paix à son âme, elle a connu 6 coups d'État. Donc c'est quand même un pays d'une instabilité immense. Quoi.
Qui a fait la fortune de beaucoup de familles ici, qui ont des hommes et des femmes politiques. Oui. Je pense à la famille Kosciusko-Morizet.
Oui, voilà, exactement.
Ou Bernard-Henri Lévy.
Alors, je ne savais pas pour...
Si. Une partie, okay. Cameroun, par les bois.
Oui.
Les bois, le bois. Les réseaux autour de la forêt.
Ouais.
Voilà.
Et du coup, ce film, il raconte plein de choses sur les questions de l'amitié, sur la question des places des femmes en Centrafrique et de la jeunesse des femmes étudiantes en République centrafricaine, sur comment est-ce que la famille, le tissu familial est compris là-bas, parce que la famille, c'est pas la même chose en fonction de là où on se trouve. Je prends un exemple. En Sango, qui est la langue nationale en Centrafrique, il y a un mot qui s'appelle Ita. Le mot, il veut dire frère et sœur, mais il veut dire aussi cousin, cousine. Et ça vient du fait que, en fait, on est, la famille, il n'y a pas de cousins. Enfin, ça n'existe pas.
La compréhension, elle est différente.
Ouais, voilà.
Ouais.
Et donc, il y a toutes ces choses-là qui sont imbriquées. Et moi, ce film, il me fait rire, mais énormément, parce que je trouve qu'il y a des punchlines qui sont extrêmement fortes sur comment ils se moquent les uns des autres, ou ils se moquent de la vie, ou ils se moquent des dirigeants et des Kotazo, c'est les grands. Zo, c'est quelqu'un. Kota, c'est grand quelqu'un, ou les grands. Enfin, je sais pas comment expliquer.
L'oligarchie.
Oui, voilà, c'est ça, l'oligarchie.
Les huiles.
Ouais, les grandes huiles. Voilà.
Les grandes huiles.
Et il est émouvant parce qu'il y a plein de péripéties qui se passent dans ce film. Je ne veux pas vous divulguer. Il vient de sortir. Il est disponible en DVD, je crois.
Tu peux redire le titre ?
Nous étudiants de Rafiki Fariala.
Ok, merci. On va peut-être marquer une deuxième pause musicale et on se retrouve après.
They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do.
Now you do what they told you.
De Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la dernière partie de notre émission sur le cinéma décolonial avec Aristide, Samuel
et François et Mariama, voilà. Qui sont toujours là.
Oui.
Et on voulait savoir pourquoi cette musique, Aristide.
Alors, ça, c'est une musique d'un groupe qui s'appelle Rage Against the Machine. Et la première fois que j'ai entendu, c'était au générique de fin d'un film très connu qui s'appelle Matrix, des Sœurs Wachowski, qui est sorti en 99. Et en fait, c'est une musique que j'aime beaucoup m'écouter. Et surtout, moi, j'aime bien écouter la musique pour me mettre dans ambiances. Et là, j'écoute des fois... soit au taf, soit dans la vie, quand j'ai pas envie de faire ce qu'on attend de moi ou mes attendus. Et ça me fait penser à une anecdote où on leur a demandé de pas chanter cette chanson à une émission de télé. Et ils ont dit oui, d'accord, on va chanter une chanson de notre répertoire. Et en fait, ils l'ont quand même chanté. Et à la fin, ils chantent Fuck you, I won't do what you tell me. Et j'ai trouvé que c'est une chanson qui est vraiment intéressante sur le côté libertaire. Et elle est liée à un film qui est Matrix, qui est connu par tout le monde, et qui est compris par personne, j'ai l'impression.
Non, ça me fait plaisir, parce que je me sentais con.
Personne n'a vraiment compris ce que c'est l'intrigue.
C'est exactement ça, et qui est récupéré...
par tout le monde.
Par tout le monde, et notamment par ceux qui s'appellent les Red Pillars, qui sont des groupes d'extrême droite qui ont démarré aux États-Unis et qui arrivent ici. Et sur le côté, je trouvais intéressant, sur le côté... le cinéma, enfin, à qui appartient le film quand tu le sors et comment est-ce qu'on fait pour pas se faire déposséder du message de son film, parce que c'est quelque chose que tu donnes en fait un film, enfin que tu donnes, que tu vends, que tu proposes du moins au monde, mais après tu contrôles pas de la manière dont c'est reçu quoi, et de voir que l'inné, et c'est pour ça que le film Matrix 4 il est un peu un film où Matrix était un peu dans la subtilité, essayer de faire passer des messages de manière subtile et tout. En Matrix 4, elle dit, en fait, la subtilité, vous comprenez vraiment pas, vous comprenez rien à la subtilité. Donc je vais vraiment foutre votre nez dans votre caca directement et vous faire comprendre que c'est ça ce qu'on pense. C'est pas subtil, quoi. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de discuter autour de ça, quoi.
Mais c'est vraiment ce que tu dis sur le fait qu'on n'est jamais maître de la réception de son œuvre. Parce que, bon, dans un autre registre qui est plus celui de la théorie politique ou littéraire, c'est une question que les situationnistes se sont beaucoup posées. C'est comment faire pour produire
des spectacles.
Non, pas des spectacles, des positionnements politiques ou des théories politiques qui soient pas justement récupérables dans une espèce d'environnement mainstream. Bon, alors, c'est évidemment très drôle parce que vraiment, la société du spectacle, on en bouffe
à longueur de journée.
Je déteste maintenant ce terme parce que je l'ai beaucoup trop lu dans des journaux de droite ou d'extrême droite. Ouais. C'est absolument insupportable.
Guy Debord doit se retourner dans sa tombe.
Hein. Ah bah là, ouais. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il a toute sa vie voulu... faire tout pour ne pas être récupérable, et en fait c'est peut-être un des théoriciens de gauche les plus récupérés et les plus détournés du sens originel qu'il voulait donner à ça.
Alors finalement il y en a un qui a réussi à ne pas être récupéré, c'est Derrida. Parce que lui, il contrôlait son image, il ne venait jamais à la télévision, ou très rarement, et il fallait vraiment accepter ses desiderata. Et quelque part, il a quand même réussi, moi je trouve.
Bah là, sur ça, par contre, je vais garder mon libre arbitre et.
D'accord.
Et te laisser maître de tes paroles.
Voilà. Yeah. Attends, après que l'invité m'aura expliqué Matrix, je te demanderai de m'expliquer Derrida, toi.
Bien, bon, on a la soirée jusqu'à demain matin. Alors, dans les cinémas, dans les cinéastes mainstream, un peu plus mainstream.
On a déjà parlé de Raoul Peck.
Voilà.
Je ne sais pas si on peut dire c'est mainstream. Ouais, non, j'allais dire, ouais, est-ce que c'est mainstream Raoul Peck ? Non, pas trop.
Pas trop. Alors, est-ce que tu as un nom à nous proposer ?
Bah, alors, moi, c'est un truc que je trouve important, c'est que nous, quand on fait les projections au Cinéscred, on n'essaye pas de s'extirper de la société et du lieu où on se trouve. On sait que le cinéma populaire, ça fonctionne. Et c'est un cinéma qu'on regarde. Et il y a plein de films qui sortent tous les ans, qui partent de ces questionnements. Et il y a un réalisateur qui s'appelle Jordan Peele, qui est très connu, qui est états-unien, qui d'abord était un humoriste avec Key. Enfin, il y avait un duo qui s'appelait Key and Peele, qui était un duo d'humoristes nord-états-uniens, parler des questions raciales et des questions de ce que ça fait d'être un noir aux États-Unis, et ça posait aussi pour les premières fois les questions des Black Lives, pas pour la première fois mais de manière aussi avec un tel succès, des Black Lives Matter, enfin tu sais, la nouvelle bourgeoisie, la noire jazzie qui vient de
incarné par Bill Cosby.
Oui, voilà, c'est exactement
les oncles Tom, comme on les appelait.
Exactement
aussi.
C'est donc des personnes qui sont du coup noires, mais qui s'extirpent
de leurs conditions
et avec comme chose très prégnante chez elles, c'est de vouloir fermer la porte derrière elles, quoi.
Tout à
vraiment
fait.
On a réussi à rentrer, par contre personne d'autre doit rentrer, juste nous devons y aller. Et il a sorti un film qui s'appelle Get Out, qui est un film qui a été vu par énormément de personnes et que je trouve moi très bon, que je trouve pas radical, hein. Par contre, c'est pas un film, c'est pas un film libertaire, quoi, contrairement à ce qui a pu être présenté. Mais en fait, on est dans un monde, dans des espaces tellement, dans des cinémas qui sont tellement, je sais pas comment le dire,
lisse,
ouais, que une légère aspérité, c'est perçu comme une
révolution,
grosse révolution. Et ce film, Get Out, pour le synopsis, pour le rappeler, c'est un homme noir qui sort avec une fille blanche et qui se retrouve en fait dans une famille qui, au début, se montre de manière très gentille avec lui, qui a des compliments sur sa personne, sur toutes les personnes noires, et avec la blague de « tu sais, si j'avais pu voter pour Obama une troisième fois, moi, je l'aurais fait, quoi ». C'est vraiment...
Et après, on voit la suite. Il ne faut pas dévoiler le spoil.
Oui, je ne veux pas dévoiler la suite. D'ailleurs, cette partie, ça... Tu sais qu'à ce moment-là, je sortais avec une personne blanche dans ma vie. Et j'avais rencontré des gens de sa famille qui m'avaient dit « Ah, tu vois, tout ce qu'ils font à Christiane Taubira ». C'est horrible. Et je fais, bah oui, c'est horrible, mais genre, moi, enfin, pourquoi là, tu me proposes ça comme discussion, enfin, ouais. On se connaît pas spécialement, et, ouais. Et je veux, ouais. Je fais, voilà.
Alors, et
bref, ce film, il a engendré plein de petits, parce qu'il a un grand succès commercial.
Mmh.
Et en fait, les petits, ils sont vraiment pas très jolis, quoi. Ils sont pas bien faits, et ça participe à un mouvement cinématographique qui est, en fait, c'est le black torture porn, qui est un peu de mettre en scène des personnes noires qui souffrent dans un but de uniquement s'ambiancer, quoi. Y a pas, on se questionne pas sur la souffrance des personnes noires à l'écran.
Alors, c'était l'inverse du couple qu'il y avait dans un film de Spike Lee.
Ouais.
Très bien, c'est Jungle Fever.
Ouais.
Mmh. Avec Melanie Griffith.
Mmh. Et sur Spike Lee, sur ce qu'il propose dans son cinéma et sur la manière dont il questionne les choses, moi je trouve que c'est un artiste essentiel.
Et il a fait des films essentiels comme Malcolm X.
Mmh. Oui, comme Malcolm X, qui dans sa construction a été une tannée parce qu'il avait réussi à trouver des financements pour faire son film. Après,
on l'a amputé d'une partie.
Voilà,
20
la Warner
minutes.
A dit, bah là, en fait, on est en train de voir le tournage, on est en train de voir ce que tu dis et tout. Et en fait, on voulait pas trop que ça soit à ce point truc, donc on va te mettre un peu moins d'argent. Et du coup, il a réussi avec des financements privés. Alors, il y a des sportifs, des acteurs, des personnes qui avaient de l'argent. Grâce à la noirjoisie, on a eu ce film.
C'est un film très radical.
Oui,
dans sa
radical.
Forme.
Il y a une version Director's Cut de disponible
non,
sur Internet.
Non, parce qu'il y a eu des problèmes de droit. C'est pas comme. C'est un peu ce que. J'espère que ça se résoudra comme Ridley Scott a eu comme problème pour Blade Runner. Il y a un Director's Cut. Parce que justement, les studios ont lâché l'affaire au bout d'un moment, au bout de 10 ans de bataille. Mm. J'espère que ce sera pareil pour Malcolm X. Mm. Et on aura director cut, avec les 20 minutes qui manquent.
Mais déjà, dans sa forme, là, il est quand même bien radical. Mm. Et bah, en parlant de droit, ça me pensait à un film de Spike Lee qui s'appelle Miracle at Santa Ana.
Ah ouais.
Et qui parle des Buffalo Soldiers. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de... Buffalo Soldiers
de Bob Marley.
Et qui sont les soldats
noirs qui se sont engagés dans l'armée du Nord.
Confédérés.
Non, pas confédérés. Ah bon. Contre les confédérés.
Et il y a aussi, par la suite, ceux qui ont été envoyés en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.
Voilà. Et qui ont ouvert les camps de la mort.
Exactement. Et
parce que comme il y avait beaucoup de pertes, on les envoyait en premier avec l'armée coloniale.
Exactement, oui, voilà. Et si vous aimez... c'est un peu l'un des thèmes du film de Sam Ben, de la relation entre les personnes colonisées noires et les personnes noires états-uniennes et la relation... je veux pas divulguer, mais voilà. Et du coup, ce film... qui a été une réponse au film de Clint Eastwood, Lettre d'Iwo Jima. Et qui a un film, quand même, parce qu'il y a énormément de films sur la Seconde Guerre mondiale où il n'y a jamais de noirs. C'est
tout
un
à
truc
fait.
Incroyable, il n'y a pas d'arabes, il n'y a pas de noirs, c'est
non.
Vraiment que des blancs.
Il faut attendre vraiment un film grand public en France, il faut attendre aussi Indigène.
Oui, Rachid Bouchareb.
Avec comme monteur quelqu'un que nous avons reçu à Pas-de-Quartier, qui est Yannick Argoat. Qui a fait le montage et qui a réussi tellement à faire un très bon montage que le film en est on ne peut plus excellent. Parce que le montage, c'est essentiel dans un film. Un film essentiel peut être raté par le montage s'il est mal fait. Et c'est Yannick Argoat qui a fait le montage de Indigène.
Bah,
faut le savoir.
Faudra le féliciter. Si tu
on va le féliciter.
Ah, ici, le félicite.
Voilà. Donc, pour information. Voilà. Et d'ailleurs, Yannick Argoat a réussi, avec ses partenaires de Mediapart, une levée de fonds historique pour faire un film qui va être présenté, dont le tournage va commencer, sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi.
Ah, ok.
Ils ont réussi à lever près de 400 000 euros par le crowdfunding. Voilà. Donc c'est bon à savoir. Okay. Et le titre du film, c'est « On n'y comprend rien ». C'est une phrase de Sarkozy qui l'a dit dans une interview. Les Français seront bien en difficulté de comprendre ce qu'on me reproche dans cette affaire. Et bien justement, ils vont comprendre au bout de 90 minutes. Parce que Yannick Agoat est un très grand réalisateur. Et je peux vous dire que quand on sortira de ce film, on aura tout compris l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Donc revenons à Spike Lee.
Et du coup, sur Marekela Santana, pour terminer, c'est que... parce qu'on parlait de droit, et j'ai fait ce long tunnel, parce que désolé, il faut que j'arrête de faire des tunnels. Mais en gros, ce film, il n'a pas pu... il avait... d'un distributeur en France qui était TF1 et qui a décidé de ne pas diffuser le film en France.
Tout à fait.
Parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas... En fait, ils ont... Ça, c'est quand même des trucs, ils closent des deals pour 3 ou 4 films de Spike Lee. Et quand ils sortent ces films, ils disent « Ouais, bon, en fait, on n'est pas sûr d'avoir le public en France. C'est limite du sabotage. Du coup, on ne va pas les sortir en France. Donc, on a les droits, on ne veut pas les donner à quelqu'un. » Parce qu'ils veulent...
Et on les garde.
Et on les garde pour nous et on... On interdit
une vision de ce film.
Exactement.
C'est de la rétention. Alors, Spike Lee a donné une interview et j'ai appris avec étonnement qu'il y a un film qu'il n'avait pas vu, dont il avait entendu parler, d'un grand réalisateur blanc, une fois n'est pas coutume, qui a eu une attitude décoloniale avant l'heure. Sur un film qui est disponible en DVD, et si vous avez le DVD, je vous conseille de le garder, de ne jamais le prêter, parce que moi je l'ai prêté, on ne l'a jamais rendu. Tellement il y a fait. C'est Shadow de Cassavetes.
Ok. Là, je n'ai pas vu.
Ah, c'est un grand film. Ça montre les chassés-croisés entre, dans une famille noire américaine, où le frère, un peu comme dans les Antilles, ils sont noirs, mais ils n'ont pas la même couleur de peau.
Ah oui, il n'a pas la même incarnation.
La sœur peut passer pour blanche et les frères sont noirs de peau. Et ils montrent l'interaction avec l'entourage blanc. Et Cassavetes a fait Shadow, qui est un excellent film et qui a été un des premiers films décoloniales. Et Cassavetes a eu beaucoup de mal pour avoir des financements ensuite pour sortir ces grands films qui sont Open Night ou bien Woman Under Influences ou Faces, ou Husbands, parce qu'il avait une démarche décoloniale.
Ah, bah, intéressant.
Voilà. Et Spike Lee avait été interrogé par un grand critique de cinéma, et il n'avait pas vu le film, mais il en avait entendu parler comme étant une œuvre de référence. Okay. Donc je le conseille aux auditeurs.
Okay. Et après, sur Spike Lee aussi, là, du coup, j'ai dit tout le positif, mais il y a aussi des trucs... sur la suite, où je trouve que des fois dans son cinéma récemment dans certains de ses films, là je pense à Black Klansman, où que c'est un film où alors sur la forme je trouve que Spike Lee il est bon, enfin il arrive à faire des beaux plans, t'as une belle image, les personnages sont jolis et tout, mais il y a quand même il manque de la profondeur, mais surtout moi c'est le propos de départ du film. C'est dans les années 70-80, c'est un snitch, enfin le personnage principal qui est un membre de la police qui fait des écoutes et qui réussit à infiltrer le Ku Klux Klan. En fait, cette personne a vraiment existé et le reste de sa carrière, c'était d'infiltrer que des mouvements afro-américains. Africain-américain, pour les démanteler et de le voir présenté dans un film du réalisateur de Malcolm X,
cet homme qui est
quand même... c'est une pourriture quand même dans le reste de sa vie.
C'est assez dérangeant.
C'est
assez
extrêmement dérangeant. Et aussi, le côté... Il y a plein de choses dans le film qui m'ont dérangé. Kwame Touré, qui est un militant états-unien, il y avait parce que du coup on l'a diffusé aussi ce film, et en fait on l'a co-diffusé, et dans les choses qu'on voulait, c'est qu'on a accepté, c'est parce qu'on veut qu'il y ait une discussion après ce film, on veut pas que les gens et notamment on a parlé de Kwame Touré, et il y avait des gens dans la salle qui avaient jamais entendu parler de Kwame Touré, et pour qui la première fois qu'ils ont entendu parler de Kwame Touré, c'est un espèce de radicaliste qui propose de tirer sur des flics et qui a pas de profondeur politique dans son propos, quoi. C'est-à-dire il y a des personnes pour qui Kwame Touré ça va être ça. ils vont pas avoir d'autres références. Et moi, je trouve que c'est un peu scandaleux pour.
Mais c'est fait exprès. Après tout, qui propose de vrais documentaires, qui propose de vraies analyses des propos de Malcolm X dont on vient de parler.
Ouais.
Avant que Spike Lee en ait fait un film grand public, Malcolm X, c'était sulfureux.
Oui.
On se l'est passé sous le manteau. Moi, quand j'ai découvert Malcolm X, c'était quelqu'un qui m'aimait bien, qui m'a dit « Bon, fais attention, ne le diffuse pas de façon ouverte. » Je dis « Ah bon ? Pourquoi ?» Donc, je me suis posé la question « Pourquoi ?» Donc, qui connaît vraiment la teneur des propos de Malcolm X ? Par exemple, Malcolm X, à la mort de Kennedy, il a rappelé tous les coups tordus faits avec l'approbation de Kennedy, de la CIA, des régimes dictatoriaux d'Amérique du Sud. Et on lui a reproché cela, alors que le pays était en deuil. Mais il fallait dire la vérité sur ça. Après tout, nous, Français, nous avons une responsabilité dans ces régimes, avec notre école de guerre à la française, qui a exporté ces méthodes de torture. Donc, il faut dire la vérité. Malcolm X a osé dire la vérité, et il a mis les pieds dans le plat, si j'ose dire.
Et on lui
pardonne toujours pas.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que d'un point de vue blanc, l'image que tu as de Malcolm X, en fait, c'est vraiment. C'est borderline, un terroriste djihadiste, quoi. C'est vraiment. C'est pas quelqu'un dont on va te présenter comme un théoricien politique ou quelqu'un, tu vois, qui a une pensée politique profonde. Ça va vraiment te le présenter comme un radical qui était.
Nous sommes à quelques semaines des Jeux Olympiques.
Ouais.
Qui a fait. Oui.
Faudra en parler quand même.
Qui nous propose de vrais documentaires et de vrais films sur les membres qui, à Mexico en 68, ont levé le poing. Les deux.
C'est quoi la question ?
Non, mais c'est pour dire que le cinéma, c'est très important, mais à moins d'avoir des bons documentaires et des bons films, et j'encouragerais à faire un film sur la vie de ces deux athlètes.
Et sur leur après.
Sur leur après.
Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer, parce que je pense qu'il y a des gens qui écoutent qui ne savent pas forcément de quoi tu parles.
Alors, je vais laisser à Aristide le soin de nous les présenter.
Il y a Tommy Jones, le deuxième, j'ai oublié son prénom. En fait, c'était à la finale aux Jeux Olympiques de Mexico en 68.
Voilà.
C'était des coureurs de 400 mètres.
Voilà, ils ont gagné tous les deux.
Qui ont fait premier et deuxième. Et qui est sur le. Et donc 68, donc en pleine période de.
Révolutionnaire.
Révolutionnaire aux États-Unis, ils ont mis.
Mais dans le monde entier.
Oui, dans le monde entier. Oui, c'était.
En fait, c'est
le monde entier.
D'Amérique, quand même.
Ils ont. Lorsque l'hymne américain a été diffusé, ils ont levé le poing avec.
Ganté en noir.
Ganté en noir.
En hommage au Black Panther.
En hommage au Black Panther.
Référence au Black Panther.
Voilà. Et on leur a retiré leur médaille parce que l'olympisme n'admet pas la politique.
Oui, c'est apolitique.
C'est apolitique, c'est censé être apolitique. Oui, voilà. Donc ce sont. Ils ont quand même gagné leur médaille et ils ont eu un prix à payer tellement fort que. Et ça, on n'en parle pas. Par contre, on a une belle exposition, une grande exposition sur l'olympisme, avec une affiche de Owens aux Jeux Olympiques de 1936. Et on n'explique pas à quel point ces Jeux Olympiques ont été déterminants. Parce qu'un noir américain, un noir, a mis par terre les théories raciales que Hitler voulait promouvoir lors de ces Jeux Olympiques. Mais de retour chez lui. Je veux dire, je suis désolée, il y avait l'apartheid, et quelque part, il rentrait par les cuisines pour aller dans les tribunes où il était célébré. Donc ça, c'est pas dit, ça, tout ça.
Alors moi, dans une autre vie, j'ai un autre podcast qui s'appelle Perf Historique, et qui parle de, dans des épisodes de 4-5 minutes, je parle d'une performance dans le sport importante, et de son lien avec l'histoire. Et à chaque fois, je donne des ressources avec, c'est pour vraiment donner l'ambition. Et j'avais commencé notamment en ressortant d'un film qui s'appelle Race, qui parle de la vie de Jesse Owens, et que je trouve simpliste à souhait, et qui donne, par exemple, ça montre le président du comité olympique américain comme quelqu'un qui était opposé, mais pour des raisons idéologiques, au nazisme. Et c'est pas pour des raisons idéologiques qu'il était opposé au nazisme, c'est juste pour des raisons de puissance, quoi. C'était quelqu'un qui était pour l'apartheid, qui n'a pas montré beaucoup de choses pour soutenir Jesse Owens. Et Jesse Owens, en plus, qui n'était pas... c'est pas un radical de gauche.
Ah non, c'était un sportif.
Ouais.
Qui faisait vraiment tout pour être à la hauteur de son sport,
ouais.
Et qui espérait que vraiment ça changerait, il changerait les choses,
ouais.
Mais par le sport.
Mmh.
Et il a changé les choses.
Mmh. Il a et qu'il y a plein de
c'est
choses
pour ses héritiers.
Qui ouais, pour ses héritiers et sur des choses que il parle pas de choses. Par exemple, ils en parlent un peu dans le film, mais s'il a couru. Normalement, c'est pas lui qui devait courir, c'était
ouais.
Deux autres athlètes, mais ils étaient de confession juive. Et du coup,
par antisémitisme, on a préféré un noir à des juifs.
Parce qu'on se dit, des juifs, il y a des risques qui nous battent, mais par contre, les noirs, ils sont trop
aucune
sauvages
chance.
Pour être plus rapides que nous, et ça n'a pas fonctionné. Et je trouve que c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, c'est essentiel le cinéma, parce que des fois, c'est la seule porte d'entrée pour certains sujets. Et quand les films, ils sont.
Bien fait,
c'est merveilleux. Mais quand Race, je trouve qu'il est apolitisant. Enfin, je sais pas comment le
dépolitisant.
Ouais.
C'est un neuneu, ce
ouais.
film. Je veux dire, moi, j'ai pas regardé jusqu'au bout. Tellement c'est.
Et même sur le plan de l'athlétisme, parce que j'ai fait un peu d'athlétisme, même sur ça, ils auraient pu faire un petit peu un effort.
Non, même ça, ils ont pas fait.
Enfin bref.
Voilà.
C'est l'argent. Et sur les personnes. Parce qu'on on a beaucoup parlé de Malcolm X. Il y a aussi, à chaque fois, quand on dit qu'il y a le bon et le méchant noir, le bon, ouais. Tu sais, c'est Martin Luther King à chaque fois. Et on ouais. oublie à chaque fois sa radicalité. Et
à la fin de sa vie, oui.
Ouais. Et ça, à quel point il était détesté.
Et ça, il le montre bien.
Selma
Non, il le montre bien dans son documentaire.
Raoul Peck.
Ouais. Il prend trois noirs. Donc, il y a Malcolm X. Martin Luther King et inverse.
Ah oui.
Voilà. Et ils montrent qu'à la fin, ils ont compris, ils avaient un fil conducteur,
ouais.
qui est la réalité économique et le problème économique. Il y a une discrimination qui est avant tout économique. Et c'est autour de cette discrimination économique, parce que c'est sur l'économie, le capitalisme, que s'est fondé le pire pour les noirs, parce qu'après tout, le capitalisme s'est fondé sur l'esclavage.
Oui.
Bon, faut dire les choses, faut les rappeler. Et ils en sont arrivés tous avec des trajectoires différentes au même constat. Il faut autre chose, une autre solution pour changer le problème des discriminés. Et c'est ce qui vaut pour les noirs, vaut pour les femmes, pour les enfants, pour tout le monde, pour toute la société.
Tous les marginalisés.
Pour tous les marginalisés.
Les minorisés. Ouais.
François.
Oh ben, je te remercie, Mariama, pour cette petite saillie bien woke et bien, bien radicale, hein, franchement.
Merci.
T'as été bien.
Ah
Bon, on arrive malheureusement au terme de cette émission.
C'était un plaisir. Hein.
C'était un plaisir de te recevoir aussi. Est-ce qu'en dernier mot, tu veux donner. Trois films qu'il faut regarder absolument.
Ah, trois films à regarder absolument. Ouais. Oh, je me suis pas préparé.
Justement, venez. C'est ça qui est bien. C'est que t'es pas préparé.
regardez Moladé. Je fais quand même un trigger warning parce que ça parle de sujets qui sont très.
Samuel Ousmane, ce sont des sujets de société qui sont tellement bien filmés, tellement bien préparés et tellement bien amenés. Que ça en vaut la peine. Donc Mouladé, c'est mon film préféré parce que je considère qu'un homme qui fait de beaux portraits de femmes, c'est un grand cinéaste. Et à ce titre, Samuel Ousmane, il rejoint mon panthéon personnel où il y a Satya Jitré, Cassavetes, Ozu, Kurosawa, Mizoguchi, tous ces grands. Il est rejoint.
Ok.
C'est pour faire court, parce que si je devais donner la liste de tous ceux que j'aime.
Bon, on refait une émission.
Voilà. On fait une émission cinéma. Voilà.
Le deuxième, là, je vais faire que les films qu'on a diffusés au Cinéscale, comme ça, c'est plus facile à trouver. Un film qui s'appelle J'essaie de Park Chan-wook. qui parle de la Corée du Sud et de la Corée du Nord et du lien qu'il y a entre ces deux pays et de comment est-ce qu'on va déshumaniser les uns et les autres et à quel point ils ne se connaissaient pas et qu'en fait, la guerre, c'est quelque chose qui est produit par des forces qui nous sont supérieures mais qui n'ont pas forcément à être perpétrées par par la population. Et je trouve que ce film, il est... En fait, il commence en étant extrêmement simple. On dit d'un côté, il y a les Sud-Coréens, de l'autre, il y a les Nord-Coréens. Et au début, t'es certain de toi. Et à la fin du film, bah, t'es rempli de questions, t'es déstabilisé. Tu sais pas exactement ce qui...
Où est le curseur.
Où est le curseur. Et il y a plus vraiment de questions de bien ou de mal qui est un peu dans le cinéma un peu mainstream que j'aime pas trop, qui est mis en place. Et le dernier, je peux proposer une série à la place de...
Allez, pas pour une série.
Le dernier, c'est la série HBO qui s'appelle Watchmen, qui parle... alors, qui est la suite d'un comics d'un anarchiste qui s'appelle Alan Moore, qui est un anarchiste britannique, qui est un auteur de comics, de bande dessinée, et qui... Alors, vraiment, ne regardez pas le film. Lisez le comics. Vraiment, ce film, c'est une honte sur... ce que veut dire le comics, quoi. Et dans la série, en fait, c'est la suite, c'est une dystopie, en gros, où on imagine que les États-Unis a gagné la guerre du Vietnam, et que serait le monde si les États-Unis avaient gagné la guerre du Vietnam. Donc c'est un monde dans lequel on ne veut pas forcément vivre. Et dans une série, c'est une mini-série, c'est une saison, et c'est 9 épisodes. En gros... il parle de la question noire aux États-Unis à l'heure actuelle, mais en s'appuyant sur une dystopie. Et ça part d'une base qui est le massacre de Tulsa, qui est un massacre qui a eu lieu aux États-Unis où il y avait une ville prospère où des personnes noires vivaient et qui vivaient pas en autarcie, mais qui vivaient dans leur coin et qui arrivaient à prospérer, à se nourrir, à aller à s'éduquer, à vivre et tout. Et qui ont été massacrés littéralement par des milices. Alors, il y en a qui disent sous le regard de la police ou avec l'aide de la police, en fonction de là où on se dispose, il y a ça. Et il y a un article de Ta-Nehisi Coates qui parle de ça, parce qu'il y a des archives qui sont sorties. Et moi, je trouve que faire du cinéma... Parce qu'en fait, ce qui s'est passé au premier épisode, le nombre de recherches sur le massacre de Tulsa a augmenté sur Google. Et moi, je trouve que c'est essentiel que le cinéma ou que les séries permettent ça. Et moi, j'aimerais bien qu'en France, si on arrive à parler de mai 67, qui est un massacre qui a eu lieu aux États-Unis, aux Antilles, ou qu'on arrive de parler... Là, on n'était pas loin du 8 mai, de ce qui s'était passé à Sétif. Voilà.
Également, et dans plein d'autres pays.
Tout à fait. Bon.
Merci beaucoup, Aristide.
Merci beaucoup à vous, franchement, merci pour l'accueil. C'était super sympa.
Alors, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Merci.
On chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Ou moi, casse les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je jouais le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entendit d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais.
fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé, t'as le gars maghrébin. Je t'ai blousé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter,